Radio Active.
Bonjour, bienvenue à l'émission Radioactive, une émission proposée par l'association Arvier et la radio Syllabe. Alors le thème de ce soir sera le marché de Léon, un marché alternatif créé et fondé par l'association Chahut. Avec nous ce soir, Samuel, bonjour.
Bonsoir à tous.
Samuel Just, du coup. Samuel, bonjour à toi.
Salut.
Et du coup, Marie et Lucie, la technique, bonjour.
Salut.
Alors nos chers invités pour ce soir, c'est Anaïs de Chahut, bonjour à toi.
Ouais, bonsoir.
Pareil, Nico, salut.
Salut.
Steven.
Salut.
ça nous fait plaisir que vous soyez là ce soir.
Tout du pareil.
Du coup, pour ce soir, on va parler de votre marché de Léon. Je crois que c'est la troisième édition, c'est ça? La quatrième, ok, on commence bien.
La cinquième.
Cinquième même, d'accord.
Cinquième.
Et pour rappeler la date, c'est le 13, 14, 15.
Et 16.
Et 16, voilà, c'est super, j'ai bien préparé l'émission, ça te va. Du coup, le marché de Léon, en deux mots, c'est quoi pour vous? Anaïs, Nico.
Eh ben, pour moi, le marché de Léon, c'est un marché de Noël à l'envers, où on vient apprendre à faire avec les artisans, plutôt que de simplement leur acheter comme on peut avoir l'habitude. Et en plus de ça, on a une conférence gesticulée, des ateliers politiques, ateliers plus mécaniques. On a des spectacles qui abordent différents thèmes aussi, comme l'obsolescence programmée, entre autres. Et des concerts aussi, c'est réparti suivant les soirs.
C'est
des chants, des contes.
C'est un peu dans la suite, dans la lignée des oiseaux de passage que vous faites vers octobre, c'est ça? Les oiseaux de passage, c'est plus festif, plus... Voilà, on va dire que... C'est un lieu d'échange et là on concrétise plus vers le marché de Léon.
En gros l'idée aux oiseaux c'est d'amener du politique dans le festif et là plutôt d'amener du festif dans le politique.
Ouais, et je pense la différence aussi avec les oiseaux de passage c'est que c'est un événement qui est un peu plus tout public, c'est-à-dire qu'on attend des enfants, des familles, voilà, que un plus large public s'y retrouve et plus ancré aussi dans le quartier. Donc là, en l'occurrence, de la Morinée à Saint-Jacques-de-la-Lande. Donc ça aura lieu au campement de Romesco.
Et c'est accessible par bus, quels sont les moyens pour s'y rendre?
C'est accessible par bus, ouais. Alors je les ai là sous les yeux.
Le C6.
Le C6, le 57. Après, on organise une vélorution aussi qui part à 16h le samedi, de la place d'Hélis. Voilà, sinon c'est accessible en vélo aussi tout le long du week-end.
Vous pouvez rappeler vite fait, c'est quoi le principe d'une vélorution?
Une vélorution, l'idée c'est de se retrouver entre cyclistes et d'occuper l'espace public, donc pour le coup la route, et plutôt de privilégier et de promouvoir le moyen de locomotion qu'est le vélo.
Et puis toujours avec des petits chants de manifestation un peu gentils, on essaie d'occuper la route contre les voitures, c'est encore bon enfant comme moyen de manifestation, si on peut appeler ça une manif.
Oui, si on peut bloquer un rond-point pendant 2-3 minutes, on le fait quoi.
Voilà, et puis la dernière que vous avez faite, je crois que c'était à la semaine de l'environnement, c'est pas vraiment chahut, c'est une vélorution avec des déguisements, avec des costumes de banane, des costumes un peu de poulpe sur un vélo. C'était assez...
T'es déguisé, toi?
Non, moi, je pouvais pas y aller, mais j'ai prêté mon déguisement de banane, qui a été porté fièrement par Théo.
Oui, on était dans le collectif Semaine de l'Environnement avec Anaïs, et c'était aussi une vélorution anti-pub. On avait le collectif rap avec nous pour parler aussi des pubs dans l'espace public, mais bon. C'est encore un autre...
Du coup, ça m'amène à la transition que je voulais faire. C'est du coup le GRAP, le réseau GRAP, du coup, c'est un réseau national qui fait Arvier et Chahut en font partie. Pareil pour le collectif de la semaine dans l'environnement. Du coup, c'est à Rennes, on se retrouve finalement tous ensemble pour faire ce genre d'événement, le marché de Léon, du coup. Et on va dire que le GRAP, ça reste quand même un bon réseau national qui fait fédérer plein d'associations à but écologique, étudiantes ou pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce réseau et comment est-ce que Chahut s'inscrit dans ce réseau?
Le réseau GRAP, du coup, c'est un réseau de 15 associations réparties sur 11 villes, en plus des collectifs de la semaine de l'environnement. Et Arvier fait partie des fondateurs de la semaine de l'environnement et du réseau GRAP, car le réseau est né pour coordonner les semaines de l'environnement qui s'étaient un petit peu éparpillées en France. Et justement, Chahut est né du collectif de semaine de l'environnement à la suite qui était à Rennes. Il y a plusieurs années.
Et 4 ans.
Il y a 4 ans, voilà.
Et du coup, moi, je vais me permettre de vous poser des questions super spécifiques sur le réseau GRAP. Comme Allez. Ça, vous allez vous amuser à y répondre. Parce que le réseau GRAP, ça a un fonctionnement plutôt régional et plutôt cool. Du coup, déjà ma première question c'était ça fonctionne comment et ça veut dire quoi exactement réseau en fait ?
Oula, ça fonctionne comment ? Vu qu'on a un réseau national du coup sur 11 villes, on fonctionne uniquement avec des outils numériques, du coup des réunions au téléphone. Et on a 3 rencontres par an qu'on fait, donc des week-ends de formation et assemblée générale. Et on fait réseau dans le sens où on essaye de se former entre nous et échanger sur nos techniques, nos organisations d'une asso et de l'autre, parce que beaucoup de projets sont communs, comme des potagers, des AMAP, des cafés autogérés. Et du coup, on échange aussi sur nos problèmes, nos défis à relever, la façon qu'on a de s'organiser, les liens avec différentes assos ou institutions locales, des outils d'animation aussi, parce qu'on anime beaucoup des fois, soit dans les campus, soit ailleurs, dans des lycées ou en place publique. Et du coup, on échange sur des outils d'animation, des jeux systémiques. Certains ont même déjà été développés par d'anciens membres du réseau.
Et quand vous dites « nous », ça veut dire quoi ? C'est un rassemblement d'associations ?
C'est bien ça, ouais. Du coup, c'est des assos étudiantes ou non. Il y a quand même un ancrage dans les campus, dans ces 11 villes en France. Et quand on dit « nous », ouais, c'est les membres de ces associations-là qui sont adhérentes des valeurs et du projet politique du GRAP.
C'est la force du collectif.
Mais le GRAP, c'est aussi un réseau d'associations qui ont tout un lien sur le politique, ça a été dit, et sur l'écologie, l'environnement. Donc pour les SDE, ça fait du sens. Mais chez eux, c'est aussi des valeurs qu'ils partagent, pas directement, mais par exemple, via la Vélorussion dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi un acte écologique. Et je pense que sur les événements, il y a une vigilance sur les produits qu'on a. Pardon, je refais une déviation sur le marché de Léon.
C'est très bien.
C'était un petit lien.
Du coup, il y a des enjeux, vous défendez des enjeux, il y a des thématiques politiques que vous défendez dans le GRAP.
Ouais, on parle beaucoup alimentation et agriculture paysanne, parce que c'est quand même des valeurs qu'on défend énormément et des sujets qu'on veut aborder. Mais on parle de l'écologie sous son sens politique, et du coup, qui inclut le social, enfin, vraiment la globalité, en se disant qu'il faut absolument tout changer pour arriver à une société écologique, et en passant par toutes les phases. Et pour moi, par exemple, le prix libre, comme on retrouve sur le marché de Léon, fait partie de cette vision-là, où ça rend accessible, où on n'est pas exclusif, où on enlève les rapports de domination, les rapports de classe ou quoi que ce soit. On essaye de revenir là-dessus et de voir ça autrement. Et ouais, on aborde vraiment l'écologie, pas juste en tri de déchets et couper l'eau quand on se brosse les dents. Non, c'est aussi beaucoup plus que ça.
Ok. Et au niveau des événements que vous organisez, c'est quoi ? C'est des conférences, des projections, des festivals ?
Bah, en fait, c'est via les associations qui sont dans le réseau ou les collectifs qu'il y a des événements qui sont organisés. Du coup, bah, en l'occurrence, les semaines de l'environnement qui vont organiser des débats, des conférences ou même des soirées festives. Et après, au sein du réseau, c'est plus pour fédérer les adhérents entre eux et qu'on se connaisse et qu'on apprenne des uns des autres, quoi.
Juste pour compléter là-dessus, il y a aussi eu 3 éditions des rencontres de la Fourche à la Fourchette, qui parle d'alimentation, d'agriculture paysanne. Et après, comme disait Nico, il y a 3 rencontres dans l'année, dont une qui est de l'auto-formation. Enfin, les 3 sont de l'auto-formation, mais surtout une en janvier qui parle... Vu qu'au sein du GRAP, on a l'agrément en service civique, donc qui parle aussi de formation tuteur-tutrice, de comment accueillir un volontaire dans son association, qu'il ne soit pas dépassé, enfin, voilà, importer un peu toutes ces questions-là, quoi.
De citoyenneté...
Les formations du GRAP, c'est aussi des jeux d'éducation populaire, comme on a pu en voir chez vous avec vos livrets que vous avez sortis il y a quelques années. Le GRAP, c'est aussi des jeux systémiques, des plusieurs moyens d'action qui sensibilisent autour de l'environnement, en fait. Du coup, dans votre rencontre formation, votre première AG, on peut dire ça comme ça, c'est aussi partager au sein des associations qui font partie du réseau des moyens d'action, des moyens d'agir, de sensibiliser, que vous avez pu vous élaborer quelques années auparavant, que vous avez testé sur terrain, qui marche. J'ai en tête le parcours du jeune agriculteur combattant, c'est bien ça ? Le
parcours du combattant du jeune agriculteur, c'est ça. Voilà. Qui est un ancien jeu développé par le réseau et qu'on s'est réapproprié pour pouvoir justement l'animer et se rendre compte de quelles difficultés on peut avoir en s'installant, et encore plus en bio, et en étant encore plus pas du milieu. Et voilà, c'est des jeux vraiment qui visent à faire réfléchir.
Et juste un exemple sur ça, il y a Laura qui était membre du réseau GRAP, qui est devenue maraîchère après, elle ne l'est plus aujourd'hui, mais elle était maraîchère pendant un moment de la MAP de Vigean ici, de l'association Arbu.
Du coup, là, j'ai devant les yeux votre flyer du marché de Lyon de cette année. On peut voir directement, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est distribution de la map de Lente le jeudi de 18h à 19h30. Vous pouvez en dire plus sur cette map? Qui sont ces producteurs? Comment est-ce que vous avez connu ce... Voilà, Anaïs.
L'idée, c'est l'intégration au quartier, comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans cette veine-là, de changer le lieu de distribution de la map, donc d'amener les gens à un événement qui a lieu dans leur quartier. Et comme ça, ça fait pour certains habitants découvrir la map et pour les Amapiens découvrir le marché de Léon et ce qui se passe dans leur quartier. Voilà, parce que c'est en lien, quoi. Des produits bio, on en retrouvera aussi en cuisine. Et des valeurs que partagent des gens qui prennent un panier à map sont partagées aussi par Chahut, quoi.
Oui, puis comme il peut être essayé souvent d'être fait aussi avec les Amap, comme justement Orvier faisait avec sa map vivante, d'essayer de créer des moments de partage aussi. C'est pas juste un endroit où on vient chercher des légumes, c'est quand même un endroit où on se rencontre. Et justement pour changer notre rapport à la consommation et ne pas juste prendre ses légumes et repartir cuisiner chez soi, non. On est là aussi pour partager et échanger.
On peut lire aussi sur le jeudi, vers 20h45, « La ville, elle est à qui? Elle est à nous ?» C'est une conférence gesticulée par Franz et Mathieu des Espaces des Possibles. Pour vous, comment est-ce que vous, dans le Grappe ou Chahut, vous avez fait connaissance de ces personnes? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire une conférence gesticulée au final?
Sur ce coup-là, c'est plutôt on s'est renseigné. Après, comme disait Anaïs, il y a un peu l'idée de se questionner sur ce quartier, de la vie, comment on vit ensemble sur un quartier, qu'est-ce qui peut nous réfréner à agir. Et du coup, l'urbanisme, pour nous, rentre en jeu. Comment sont prises les décisions? Qui est-ce qui organise les villes? En fait, il faut se rendre compte que le campement de Romesco, c'est une ancienne ferme qui était au milieu des champs il y a 20 ans et qui se retrouve au milieu d'immeubles de 4-5 étages où vivent des gens quelques années ou plus. Et du coup, y a l'envie un peu de s'armer sur ces questions-là, quoi. Ça a parlé des processus de gentrification qu'il peut y avoir dans les villes. Et en fait, c'est deux personnes qui ont fait le Tour de France en vélo et qui se sont rendues compte. C'est parti du constat que toutes les villes se ressemblaient de plus en plus par la destruction de maisons ouvrières ou autres, transformées par des immeubles avec des promoteurs qui contrôlent un peu le marché. Exactement. Donc voilà, c'est pour rendre visible un peu tout ça, quoi.
Sur le sujet, on a fait une émission radioactive l'année dernière. C'était la dernière émission de l'année, l'année dernière, sur la réappropriation de la ville par ses habitants. Et on avait interrogé Franz et Mathieu, c'est ça, de Espace Possible. On avait fait un petit reportage dessus, si vous voulez écouter le podcast.
Sur le syllabe, vous pouvez retrouver tous nos anciens podcasts. Anaïs.
Et du coup, pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, une conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire, on pourrait dire, qui partage des savoirs froids, donc plutôt théoriques, des connaissances sur l'immobilier en l'occurrence, et des savoirs chauds, donc leurs ressentis et eux, leurs expériences, anecdotes qu'ils ont eues, par exemple sur leur tour de France à vélo.
Voilà, ouais. Les deux, en fait, il y en a un qui a une formation de sociologue urbaniste et l'autre de géographe urbaniste. En gros, ils se sont rendus compte dans leurs études des incohérences qu'il pouvait y avoir entre leur futur boulot et eux, leurs convictions, leurs valeurs, quoi.
Voilà. Et puis, pour revenir plus globalement sur le principe d'une conférence gesticulée, c'est n'importe qui, même avec... déjà, c'est tout le monde a un savoir et tout le monde peut le partager. Et le principe même d'une conférence gesticulée, c'est de partager son savoir à d'autres personnes pour dire si vous êtes, je ne sais pas, il y a une banquière qui a passé 40 ans au sein d'une banque, elle peut parler de son ressenti, comment est-ce qu'elle a vécu, et peut-être partager ça aux autres. Ou s'il y a une assistante sociale qui a fait toute sa vie dedans, l'outil de conférence gesticulée, c'est vraiment un outil d'éducation populaire qui nous permet de repenser notre rapport au savoir. On est plus dans un savoir vertical et on se dirige vers un savoir plus horizontal où tout le monde peut apporter quelque chose et on s'assoit tous ensemble et on parle. Et puis c'est un super chouette outil à notre disposition que le réseau Grappe véhicule notamment dans ses valeurs.
Puis on se marre aussi.
Oui, bien sûr, c'est une conférence théâtralisée, il y a beaucoup d'humour, c'est bon enfant, comme on peut dire. Du coup, pour revenir sur votre petit flyer, je vois là sous mes yeux plein de petits ateliers, bijoux, poterie, couture, jouets en bois, forge, pain, travail, du cuir, dessin, enfin il y en a tellement que c'est alléchant, c'est, on a tous envie de venir et apprendre à faire ça. Du coup, ça s'inscrit dans une logique alternative aux fêtes et aux cadeaux qu'on peut faire à Noël. Là, au lieu d'offrir, un jouet acheté au supermarché, à jouer club, on peut aller à fabriquer soi-même son propre jouet avec des matériaux où on sait d'où leur provenance, si c'est recyclé ou pas. Et puis, c'est aussi du savoir qu'on apprend. Et du coup, pour vous, avoir une telle diversité, je crois que vous en êtes au bout de 13 ou 14 ateliers différents. À la fin, il y a même atelier olfactif, atelier baume à lèvres. C'est vraiment très diversifié. Du coup, ce choix des ateliers, ça vous est venu comment à l'idée ?
Alors, je pense qu'il y a, l'historique du marché de Lyon qui donne de plus en plus d'idées et du coup d'aller de plus en plus à la rencontre d'artisans dans des événements similaires ou des gens qu'on rencontre dans nos parcours de vie. Ah ouais, toi, tu travailles le bois, trop bien. En fait, nous, on organise un événement et on voudrait faire intervenir des artisans. Et je pense que le but, c'est de montrer plein de petits métiers, enfin pas petits, plein de métiers artisanaux qui ne sont pas toujours visibilisés aujourd'hui dans notre société de consommation. Et en fait, qui montrent qu'on peut faire la majorité de nos objets du quotidien et qu'on peut offrir aussi avec nos mains.
Et qu'on peut réparer au passage aussi.
Qu'on peut réparer aussi. Alors, en l'occurrence, les ateliers ont pour but vraiment de faire une initiation manuelle. Du coup, c'est des objets simples en général, une petite trousse, une poupée, un jouet, un stylo, une cuillère. Histoire de toucher les outils, toucher la matière et surtout, en fait, de parler avec l'artisan, artisane qu'il y a derrière. Parce que lui, il fait ça toutes ses journées. Et je pense que c'est ça qui est important aussi dans la confection des objets, des objets ou de la nourriture, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus cette relation avec le fabricant, même avec le commerçant, on a de moins en moins. Et du coup, de remettre ça au centre, en fait. Derrière, il y a des humains qui passent du temps, qui sont créatifs et qui peuvent nous apporter des petites choses aussi après pour notre quotidien et de se dire, bah ouais, en fait, moi aussi, je peux faire ça moi-même, je peux réparer, je peux garder.
En plus du coup d'échanger, vraiment, cette rencontre, elle est à prix libre. Elle est à prix libre aussi pour plusieurs raisons. Et notamment, justement, en échangeant avec les artisans, de se re-questionner sur la valeur du travail et la valeur de ces objets, la valeur qu'on leur accorde en termes d'argent, parce qu'en fait, ils ont quand même besoin d'argent pour en vivre, mais en même temps, ils n'auront pas de prix fixe, ce sera à nous d'estimer leur travail et ses matières.
Ça a été facile pour eux d'appréhender ce nouveau type d'échange ?
C'est super intéressant d'échanger avec eux là-dessus, et comme disent Anaïs, dans les rapports humains qui se passent, on comprend aussi que en fait, certains sont professionnels, certains c'est des passionnés, en fait, ils ne vivent pas de ça. Ils n'ont pas forcément envie d'en vivre. Enfin, il y a des remises en question aussi de personnel et des choix de vie dans tout ça qui sont super intéressantes à échanger, en fait.
Le marché de Lyon, c'est beaucoup de remises en question sur plein de choses. Là, du coup, on a parlé de tous les petits objets qui nous entourent, des bijoux à la poterie, à l'artisanat, de manière générale. Du coup, est-ce que quelqu'un de lambda, par exemple moi, qui ne sait pas faire du pain, ni de petit pain au chocolat, ni de brioche, j'ai aucune connaissance là-dessus, est-ce que je peux venir juste comme ça et avec ma bonne volonté apprendre à faire du pain et peut-être partager ce savoir à quelqu'un d'autre? Ou bien c'est juste je vais là, j'apprends et puis ça me pousse à voir un peu plus que Nico.
En tout cas, tu vas découvrir. Je te garantis pas que tu apprendras à faire un pain au chocolat ou de la brioche, hein, je te préviens tout de suite. Mais dans tous les cas, tu vas apprendre, dans tous les cas, je me répète, à faire du pain, à travailler la pâte, à voir la cuisson avec l'équipe donc de la pâte mobile. Et pourquoi pas plus tard soit réessayer chez toi ou soit retourner avec eux pour en refaire essayer entre amis. Enfin, c'est une initiation, comme disait Anaïs.
Il y a des exemples. Il y a une association qui s'appelle Le Pain qui court aussi qui travaille sur des ateliers pédagogiques sur le pain, sur la farine, le blé, enfin un peu tous ces éléments-là. Et il y a l'idée aussi d'autonomiser un peu les gens derrière, dans le sens où, comme disait Nico, t'en as fait un peu et en fait t'as envie de réessayer chez toi. Du coup, tu commences à avoir un levain, tu commences à l'entretenir, à vouloir faire du pain avec. Enfin, il y a un peu toutes ces idées-là derrière aussi, quoi.
À savoir ce que c'est un levain. Je pense que c'est plus, les ateliers artisanat, c'est se faire plaisir sur le moment quand on fait notre petite fabrication, parce que c'est vraiment un moment de plaisir. Mais c'est une sensibilisation, c'est assez succinct, il n'y a pas la prétention d'apprendre aux gens à devenir potier ou forgeron. Et juste pour préciser, le marché d'artisans, il se déroule pas sur tous les jours de l'événement. C'est seulement le vendredi à partir de 16h et le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Tous les ateliers sont sur inscription, c'est bien ça?
Non. Alors en fait, le campement de Romé, enfin certains ateliers, on peut juste venir sur les heures d'ouverture du marché d'artisans et se présenter auprès de l'artisan et prendre une place à sa table. Et pour d'autres ateliers, comme le pain par exemple, qui nécessite plusieurs étapes dans la journée et un processus assez long, on va demander aux gens de s'inscrire.
L'atelier mécanique.
Ouais, il y a un atelier mécanique en non-mixité, donc féminine. Du coup, apprendre à réparer un moteur. Du coup, là, il faut s'inscrire. Enfin, les ateliers animés, à proprement dit, sont sur inscription sur Internet, sur le Facebook.
Donc, les ateliers inscription, il y a du son et lumière avec la famille Molili. Donc, apprendre à appréhender un peu la technique son et lumière de scène. Il y a de la vidéo.
Du loop.
Du loop, donc ça, c'est atelier loop, atelier rap. Ouais. Donc, s'enregistrer sur un sample et écrire des textes et pourquoi pas rapper dessus.
Je veux aussi atelier sur la sécurité sociale. Vous pouvez m'en dire un peu plus, ça m'intrigue un petit peu. Ça parle de quoi?
C'est un atelier animé par des membres du réseau salariat d'Angers. Et donc l'idée, c'est un peu de voir toutes les attaques qu'a subies la sécurité sociale ces derniers temps et de comprendre peut-être un peu mieux d'où elle vient cette forme de sécurité sociale qui a été créée en grande partie en 1945 avec le Conseil national de la résistance. Et du coup, voilà, comprendre quels sont les enjeux économiques qu'il y a aujourd'hui, quels sont les enjeux sociaux. Enfin, de se dire que c'est un budget, l'équivalent de l'État, qui est géré en dehors du budget de l'État. Enfin, il y a des choses intéressantes derrière.
Indépendamment, les salariés eux-mêmes qui gèrent la sécurité sociale en 45, bien sûr. Et du coup, il y a plein de sérieux, il y a plein de savoirs théoriques, et du coup, il y a plein de savoirs pratiques aussi. Mais plus important, il y a aussi des bons moments où on peut juste s'amuser, on peut voir des duos de contes malicieux et de musique voyageuse, comme je peux voir ici. On peut aussi voir d'autres contes plus absurdes, comme vous décrivez sur le petit flyer. Et pareil, Flashbook Book Dance, je ne sais pas si je le prononce correctement.
Ça, c'est un concept.
Du coup, c'est vraiment un tout qui englobe le pratique, le théorique, un peu d'amusement. C'est vraiment, sur 4 jours, on est là, on essaie de vivre plein d'émotions. Voilà, est-ce que c'était une volonté de la part de Chahut de faire un programme qui soit pas uniquement festif, pas uniquement mécanique, enfin théorique ou technique, mais vraiment un tout qui pousse pour que les gens puissent se sentir à l'aise et passer de beaux moments surtout?
Ouais, c'est un événement, j'aime bien ce terme de politico-festif.
Mais... je pense, l'idée dans le marché de Lyon, c'est de faire vraiment quelque chose de convivial, où on prend du bon temps, on apprend. Et d'ailleurs, ça finit, j'en profite, le dimanche, donc c'est ouvert aussi, et ça finit par une soirée chant, en fait, où les gens sont invités à venir. Il y aura notamment une chorale de femmes qui ouvrira la soirée chant.
Quel est son nom, cette chorale?
Les Bobettes au vent.
Et amenez votre carnet de chants préférés.
Voilà.
On se quitte, on se juste après l'interlude musicale.
Tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamins. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salauds vendus, de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs, des peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. la cour et chez moi. Soyez-en simple exécutant de la volonté de l'autorité publique. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Les bandits seuls vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
L'émission radio active.
Samuel, je te fais coucou des yeux et je te dis, c'est quoi ta chronique? Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir?
Un truc tout chaud parce que je m'y prends comme d'habitude au dernier moment. Donc ça vient de sortir. Je laisse un petit extrait à votre écoute.
Bonjour, petite fille. Tu as l'audace de t'aventurer dans le repaire du Gris! Quelle impudence! Quelle effronterie! Quelle toupette culottée! Tu as déclenché le tonnerre! Maintenant, tiens-toi prête pour le boum!
Et oui, pour le boom, aujourd'hui je révèle l'apparence du Grinch avec une vraie chronique de rabat-joie. Je vais littéralement détruire la magie de Noël par un pragmatisme presque honteux. On va parler de ce que cache la manie de s'offrir des cadeaux durant cette période de l'année, celle qui se met à genoux à la gloire du consumérisme. Vous l'aurez compris, on va parler du rôle du don à l'époque de la culture de la consommation. Alors évidemment, on pourrait parler alternative durable et écolo dans la pratique entre guillemets de Noël, mais c'est quand même beaucoup plus drôle de se plaindre et de gueuler, on n'est pas français pour rien. Alors, d'ailleurs, la magie de Noël, quand on y réfléchit deux secondes, je vais passer pour un vieux réac, mais c'est encore un coup de notre vieux copain le capitalisme, ça, non? Bon allez, on va éviter de radoter, c'est du vu et du revu, la critique du Père Noël de Coca-Cola, on va éviter d'enfoncer des portes ouvertes. Bref, je m'égare. Concentrons-nous sur notre sujet, le rôle du don dans la consommation. Le don, dans sa forme, a plus ou moins résisté à l'évolution de l'espèce humaine. Il s'agit depuis toujours d'un acte d'abandon gratuit de la propriété de quelque chose à quelqu'un d'autre. À travers les époques, c'est sans doute dans son fond qu'il a pris cher, comme disent les jeunes. En effet, le don a pris un fond qui est sorti du désintéressement de l'acte. Marcel Mauss, un des pères de l'anthropologie, explique ce concept de la manière suivante. Les dons entraînent des contre-dons. Ainsi, on ne fait pas un don en contrepartie ou pour rendre l'appareil comme on le ferait dans l'échange ou le troc, mais on fait un don plus important que celui qu'on nous a fait par politesse. Cependant, cette politesse est obligatoire. Ainsi, l'auteur montre bien que ces dons échangés ne sont que le fruit d'une convention sociale établie. Le don n'est pas un acte désintéressé, mais fait l'objet d'un échange de dons et contre-dons. L'acte de donner à ceux-ci d'intéresser qui les fait non en lui-même, j'espère que vous aurez compris, mais selon le don précédent et en plus qu'il répond à des conventions et n'est pas fait spontanément par un élan du cœur. Le don est nécessairement un acte intéressé. Ce désintéressement du don, il a été accentué par notre société basée sur le modèle capitaliste, le fameux système du financement par des investisseurs qui est finalement un système de don, mais un peu faussé puisqu'on demande un retour sur investissement. Aujourd'hui à Noël, Aujourd'hui à Noël, c'est le même phénomène de désintéressement multiplié par 100. On offre des cadeaux dans lesquels on y insère un morceau de soi. On indique de façon invisible et sourde à l'autre qu'il y a eu un effort dans la recherche et la constitution du cadeau et qu'il doit donc être reconnaissant. C'est un peu ce phénomène qui nous bloque socialement. Tu sais, quand tu reçois une paire de maniques tricotées, que tu n'oses pas dire que c'est purement une idée à la con et que tu t'empresseras de revendre sur le bon coin, comme tout bon agent économique au raisonnement purement optimisé, selon nos poteaux, les économistes néoclassiques, Tu sais, les bons économistes pragmatico-pragmatiques qui iront te dire que si tu peux, tu as intérêt à vendre ta grand-mère si tu peux en tirer 3 sous.
Toi-même, tu sais.
On observe aussi un autre phénomène dans l'acte de don de cadeaux au moment de Noël, qui est un peu glaçant, je trouve. Le sentiment de culpabilité qu'on a lorsque l'écart de valeur monétaire entre le cadeau reçu et le cadeau donné est élevé. Tu sais, tu te dis « Merde, la honte, avec mes bougies faites maison, je peux pas rivaliser avec son pull en cachemire. » C'est assez fou de se dire qu'on rentre sans le vouloir dans une logique de comparaison et on est plus dans une relation saine d'échange simple de bonheur et de bienveillance. Alors on se rassure en se disant « Mon cadeau, il a une valeur affective, donc ça va. » Mais d'où vient cette douce souffrance? Pourquoi on s'inflige ça? Parce que ton cerveau, mon cerveau, nos cerveaux sont rentrés grâce à une logique de comparaison, de compétition constante. Et oui, même avec ton copain, ta copine, ta mère, ton père, ta sœur, ton frère. Merci pour le cadeau, Papa Noël. Voilà, donc pour vous faire cette chronique, je me suis notamment inspiré d'une revue du MOS, donc le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Vous aurez remarqué la petite référence au nom du grand anthropologue qu'on a cité tout à l'heure. Et donc il y a forcément un chapitre sur Noël qui est super intéressant. Donc je vous le conseille, cette revue qui est coécrite par un paquet d'auteurs en sociaux, en marketing, en anthropologie et qui date de 2014. Moi, les jeux craquent. J'avoue qu'il existe des alternatives pour essayer de s'en sortir. Face à tous ces mots M-A-U-X, on remarque quelques lueurs d'espoir dont Nicolas, Steven, Anaïs, ici présents, en sont des représentants.
Merci Sonnet pour cette chronique. Du coup, j'ai envie de dire merci tout d'abord. Et est-ce que cette chronique, c'est un dent vers l'émission radioactive?
Pardon, j'ai pas entendu.
Est-ce que c'est un don que tu viens de nous faire avec ta chronique?
Ah bah c'est un don, mais purement désintéressé.
Ah bah ça nous fait plaisir. Anaïs, Nico, Steven, une petite remarque. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique?
Comme dirait ma grand-mère, mon plus beau cadeau, c'est que vous soyez tous là. Elle a tout compris.
C'est vrai que j'ai été un peu cynique dans cette chronique, mais je pense qu'il y a encore des dons qui sont désintéressés. J'y crois quand même, parce que quand je vois simplement le sourire que peuvent avoir tes proches à t'offrir quelque chose, je pense que c'est pas faux ça, et que clairement, c'est un vrai sentiment qu'on ressent au fond de nous-mêmes, donc bon, voilà, c'était un peu jouer sur le cynisme, mais bon, j'y crois un peu, je vous avoue.
Je vois bien le côté, des fois, oui, désintéressé, le plaisir d'offrir quand même, mais des fois associé à une certaine valeur pour être un peu sûr de faire plaisir, et toujours aussi quand même le cadeau de valeur à Noël, plus on met d'argent, mieux c'est, quoi.
Moi, ouais, c'est marrant parce que je viens de rencontre associative, on a parlé de ça, dont un gars qui a fait une recherche sur le financement participatif dans les associations. Et du coup, on parle de dons dans le financement participatif, mais si on passe par des structures, je ne citerai pas leur nom, mais qui prennent une marge, déjà, il y a une marge par la structure. Et ensuite, dans ton exercice comptable, tu peux te refaire taxer sur ces dons-là. Donc en fait, ce don se fait taxer à minimum 2 fois. Donc est-ce qu'on peut parler de dons, en fait, quoi?
Et du coup, moi, j'aimerais parler de quelque chose. Qu'on se pose une question. C'est qu'est-ce qui a le plus de valeur, par exemple, entre un portable qui coûte, je sais pas moi, à peu près 500 euros ou, je sais pas, quelqu'un, un peintre qui va faire à un ami un tableau qu'il aura mis, disons, 20 heures à peindre. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, le marché de Léon, parce que ça soulève cette question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur entre le temps que tu passes ou l'argent que tu mets? Et c'est pour ça que je suis assez fan du concept, parce que ça permet d'y réfléchir et de prendre du recul.
Moi, ça me questionne aussi sur le fait... moi, j'ai remarqué souvent, les parents ou les grands-parents sont très réceptifs à des cadeaux faits main, où on a passé du temps, même s'ils ne sont pas top. Et c'est souvent les enfants ou les petits-enfants qui prennent le temps, parce qu'ils n'ont pas les moyens encore, d'offrir un cadeau avec une valeur monétaire. Du coup, comme s'il y avait un âge pour recevoir un don ou pour en faire, je sais pas, ça me questionne. Et quand tu arrives, par exemple, à mon âge, et que tu fais encore des bougies faits maison... Ça passe un peu moins bien.
Ça dépend si c'est l'âge ou si c'est le monde dans lequel on a grandi aussi.
Oui.
Parce qu'il a grave changé, c'est pas le même. Et on est un peu plongé dedans depuis qu'on est petit, nous, de biens matériels qui nous entourent.
Il y a des familles qui font la guerre justement à ces principes de à partir de tel âge, tu es en âge de. T'as ton revenu, tu es en âge de pouvoir faire tes propres cadeaux. Il y a pas mal de familles qui se sont dit, moi, à partir de 16 ans, on a arrêté de faire des cadeaux aux enfants, quoi. Et tout ce qu'on apprécie dans le moment de Noël, c'est juste passer du temps ensemble, se retrouver. Et on a juste occulté ce principe, cette habitude, en fait, qu'on a prise. Donc voilà, il y a des choses qui existent.
Pour revenir sur les cadeaux et le fait de faire un cadeau, ça doit être produit, ça doit être conçu quelque part. Et on sait que bah, tous les cadeaux qu'on fait ne sont pas utilisés par tout le monde. Et finalement, ça repose la question du gâchis de Noël, de l'empreinte carbone, du consumérisme à Noël. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça, de tout le gâchis que génèrent les fêtes de Noël et d'autres fêtes à Saint-Valentin, tout ça.
Il y a un truc, c'est pas mal mis ensemble pour causer de ça là, au sein du marché de Léon, à certaines, de un peu la popularisation de se dire maintenant on peut revendre les cadeaux. Enfin, c'est de plus en plus, pas bien vu je dirais, mais de moins en moins mal vu. On voit beaucoup de chroniques, en janvier on va encore en voir dans tous les grands médias, de se dire des micro-trottoirs, d'aller voir des gens, est-ce que vous revendez les cadeaux ou pas. Et enfin, pour moi c'est une forme de, peut-être pas une forme de gâchis, mais... pas gâchis monétaire, mais gâchis de don, quoi. Gâchis d'avoir mis de la bonne volonté d'offrir quelque chose à quelqu'un, et en fait, ça lui correspond pas du tout. Et voilà.
Ça pose aussi la question de la surproduction lors de moments de fête, qui, c'est une empreinte écologique à un coût pour le climat et pour la planète.
Bah oui, c'est quand même beaucoup, de plus en plus en tout cas, de cadeaux, un peu de nouvelles technologies, de trucs portables, appareils photo, ordinateur, MP3, casque, tout ce qu'on veut, quoi. Qui viennent de l'autre côté du monde, qui ont des minerais précieux, des vêtements pareils. Enfin, c'est quand même souvent beaucoup des cadeaux de valeur. Et oui, comme tu dis, avec un fort coût environnemental, sans compter le menu du repas.
Moi, personnellement, à cette époque-ci, j'éteins ma télé parce qu'on est bombardé en plus de pubs et de jouets en plus en plastique fabriqués je ne sais où. Et du coup, perso, ça me dégoûte un peu de voir tous ces jouets qui vont être souvent en plus ouverts. Les enfants vont y jouer une fois et puis ils vont rester dans un placard. Voilà, je trouve que c'est vraiment...
Mais je pense qu'en fait, on a... Enfin, bon, c'est mon côté un peu optimiste qui ressort, mais on a un sentiment de gâchis et de surconsommation à Noël. Mais du coup, c'est aussi parce que c'est sur une temporalité qui est courte. Et du coup, en fait, beaucoup de gens attendent ce moment pour offrir le cadeau ou pour s'offrir aussi l'objet dont on a besoin, un ordinateur ou un téléphone. Donc, en fait, moi, ça me questionne aussi sur le fait de grouper, d'avoir une fête qui soit dédiée à ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Franchement, je ne sais pas me positionner. Mais je pense que ça. On peut aussi se dire que les gens qui veulent contrer cette surconsommation périodique, c'est se dire qu'on peut s'offrir des cadeaux aussi à d'autres moments de l'année. Ce qui permet aussi d'atténuer cette empreinte carbone ou gâchis. je ne connais pas tout, mais.
Dans le même délire, il y a le Black Friday aussi. Hein. On en sort.
Ouais, et puis il y a les soldes aussi de mi-janvier à mi-février.
Il y a pas mal de soldes dans l'année, bizarre.
Ouais, c'est quoi? Ils ont droit à deux périodes, plus une volante quand ils veulent, plus le Black Friday qui se rajoute, plus les promos privées. Plus.
Si je peux rajouter un truc par rapport au marché de Léon, nous, on se questionnait aussi beaucoup sur faire un Noël alternatif. D'accord, quels sont les codes de Noël? Et notamment, il y a celui de la famille qui est très très fort, de devoir se réunir avec sa famille, donc de devoir avoir une famille qui s'entend bien, avec le schéma familial qui existe en France, un papa, une maman, des enfants, des grands-parents, des oncles, des tantes, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. De se demander finalement pourquoi un tel schéma familial avec tous les attributs de genre aussi qui vont avec, souvent notre maman qui fait le repas ou des choses comme ça.
Papa couvre la bouteille de vin.
Voilà. du coup, c'est pas directement mis en avant dans le marché Léon, mais c'est un questionnement qu'on a eu de se dire, en fait, essayons de déconstruire aussi ce patriarcat familial et... c'est un peu des gros mots, mais... et de dire que tout le monde peut faire les cadeaux, tout le monde peut faire à manger, tout le monde peut faire Noël avec des copains aussi, ou seul, ou partir en voyage.
Voilà. C'est pour ça aussi qu'on s'est demandé... Cette année, on voulait encore plus axer sur l'accès aux enfants pour les ateliers. En fait, on s'est demandé, est-ce qu'on crée un endroit qui serait dédié que aux enfants? Par exemple, genre une espèce de garderie, entre guillemets, quoi, je m'entends. Et en fait, on s'est dit, non, en fait, c'est aussi bien que toute la famille vient ensemble, le papa, la maman, les enfants, et qu'en fait, ce soit pas le papa qui aille faire de la forge, la maman de la couture, et les enfants vont faire du dessin, quoi. Mais plutôt se suivre aussi, cette volonté de donner la possibilité qu'une famille se suive d'atelier en atelier et le fasse ensemble, quoi.
Toutes les familles. Enfin, pas que les familles qui ont un papa et une maman et des enfants.
Moi, j'ai envie d'être un peu rêveur ce soir. J'ai envie de vous poser une question. Et pour parler d'optimisme, pour vous, quel est un Noël écolo? Comment ça se passe? Est-ce qu'on n'emballe pas ses cadeaux? Est-ce qu'on essaie de réduire au maximum ses déchets? Est-ce qu'on... pour vous, c'est quoi un Noël écolo responsable? Tout ce que vous voulez. Steven, peut-être?
Ouais, je passe mon tour.
Pour moi, les emballages, non pas forcément. On peut aussi se trouver d'autres emballages. On pourrait, par exemple, emballer un cadeau en tissu et récupérer après ou s'en servir pour refaire autre chose. Enfin, pour moi, il y a quand même une sorte de magie qu'on peut garder. C'est pareil, on peut faire de la déco sans avoir à couper un arbre et l'exposer 3 semaines dans son salon. On peut aussi trouver autre chose. On peut réfléchir au menu, par exemple. Éviter de manger des produits de luxe à chaque fois.
Ouais. Je pense que ce côté rêveur, magie de Noël, elle est importante. Enfin, elle fait écho à pas mal de gens quand même. Et ça peut être sur les emballages, ça peut être aussi sur le fait de faire moins de cadeaux. Je sais qu'il y a, enfin, moi dans ma famille, il y a un fonctionnement, vu qu'on est une grande famille, de tirer au sort la personne à qui on va offrir son cadeau. Donc c'est aussi un moyen de se dire, bah du coup, on se concentre à mettre son attention sur faire le cadeau pour une personne. Et pour moi, le côté écologique, ça passe aussi, par exemple, les autres membres de ma famille ne sont pas très sensibles à ça. Et du coup, de leur offrir un cadeau qui vont les emmener sur ce chemin-là. Par exemple, des cotons lavables pour ma petite sœur qui se maquille. Enfin, des objets comme ça qui vont rentrer dans leur quotidien et sans leur imposer. Enfin, voilà, trouver un juste équilibre pour quand même qu'ils aient un cadeau qui leur fasse plaisir, mais qui soit un peu plus écologique.
Voilà, c'est sournois, hein.
Finalement, les écologistes peuvent se réapproprier la magie de Noël. C'est pas quelque chose qui nous appartient plus, on peut toujours le faire à notre façon et voilà, avec nos propres principes et nos propres codes moraux.
Ah bah, la faire vivre.
Exactement. Du coup, l'émission Radioactive, c'est aussi une émission où on veut donner la parole à chacun pour qu'il puisse nous parler de ce qu'il ressent et comment il peut vivre les trucs. Du coup, vous, par exemple, à Noël, comment est-ce que vous appréhendez cette fête? Est-ce que vous essayez de ramener, par exemple, le marché de Lyon, vos débats politiques au sein du repas de fête? Est-ce que vous vivez ça comme un moment de pause de vos convictions et vous y allez comme n'importe qui? Comment est-ce que vous appréhendez cette fête et cette période?
Moi, c'est toujours le terreau de discussions politiques clivantes. Des fois, j'évite, mais ça revient souvent à un moment du repas. Et voilà, non, je ne le mets pas en pause, non. Enfin, je le mets en pause à certains moments où je me dis que là, il y a peut-être un moment qui se crée, convivial, serein. Voilà, on va peut-être rester là-dessus, mais je sais que j'ai souvent quand même mes positions, convictions politiques qui ressortent, quoi.
Samuel,
Noël déjà c'est un moment déjà pour revoir des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis c'est aussi l'idée au niveau des cadeaux, par exemple, chez notre famille, on essaye de faire les cadeaux les plus rentables. Quoi. On se parle beaucoup dans notre famille et du coup un cadeau c'est à Noël chez nous c'est jamais quelque chose d'inutile. Ça va jamais être quelque chose qu'on offre comme ça sans trop savoir si ça va plaire à la personne. À chaque fois on essaye de taper dans le mille et en fait c'est plutôt, enfin je vais pas dire écologique, mais voilà c'est optimisé. Je ne sais pas si optimiser ça fait magique, mais voilà, l'idée c'est, on sait que voilà, on discute, par exemple, j'habite à Lille, il fait froid, bon bah je vais t'offrir des, enfin on le dit pas, c'est une surprise, mais bon bah tiens, je vais t'offrir des grosses chaussettes, et on sait que quand le membre de la famille va ouvrir le cadeau, ça va lui faire plaisir quoi, ça va pas être un truc qu'il va utiliser un jour, voire même pas du tout, et voilà.
Je pense que dans aussi le choix de se réunir avec sa famille ou pas, c'est quelque chose de politique en fait. D'avoir la liberté de le faire ou non, et de si c'est plus ou moins important, pas de se forcer, mais de dire que là, ok, c'est une occasion où je peux aussi recréer du lien avec ma propre famille. Enfin, pour reparler du lien entre les humains, c'est pas toujours drôle pour certaines familles, enfin je sais pas, mais je pense que garder le lien avec des gens qu'on connaît et qui nous portent de l'attention, c'est important. Enfin, surtout en grandissant, où on a un peu tendance, enfin, peut-être nous, à se détacher de nos parents et faire notre propre vie. Eux, ça leur fait plaisir. Enfin, je sais pas, bon, moi, je suis un peu bisounours.
si, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et puis, moi, justement, dans ces valeurs que j'accroche, et notamment à l'écologie, il y a vachement la notion de partage aussi. Et cette notion de partage, justement, on la retrouve à Noël. Alors, elle prend des formes qui peut-être ne conviennent pas forcément, mais ça reste du partage et ça reste des moments communs et qui sont quand même très agréables. Et cette magie de Noël, on a grandi avec, on l'a adoré quand on était petit et je trouve ça cool qu'on continue de la faire vivre. C'est juste que oui, moi personnellement, je me prépare psychologiquement à dire qu'il va y avoir quelques contradictions qui vont s'enchaîner sur ce moment-là. Bon, on va te faire bouffer du foie gras, c'est pas grave. Tu dis oui une fois dans l'année, ça fait plaisir à la grand-mère, c'est très bien. Mais voilà, mais à côté de ça, ça reste quand même. C'est quand même un moment que j'aime bien.
Si les producteurs de tofu nous écoutent ce soir, quand la dinde au tofu qu'on pourra pour recréer la machine
au soja.
Au soja,
pas au GM du Chili, attention,
il faut faire attention au minimum.
Analyse. En fait, le côté politique, faut qu'il faut faire, enfin comment dire, faut faire attention sur ces réunions de famille aussi pour pas que ce soit... Enfin, moi, en discutant avec certaines personnes autour de moi qui sont contre ces réunions de famille, en fait, il y a un peu un tapage médiatique et universel qui stigmatise le fait que Noël doit être fait en famille et, voilà, et qu'on doit avoir une famille. Et je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, garder une vigilance à ça, en fait. Pas tout le monde a cette chance aussi... Enfin, d'être un peu politisé dans ce sens-là, de dire d'accepter et peut-être aussi d'inviter des gens qui ne sont pas de notre famille. Enfin, bon, ouais. Je l'ai pas fait encore, c'est pas quelque chose qui se fait chez moi, mais...
Je pensais à ça, justement. Voilà, ça fait un peu, comme tu disais tout à l'heure, bisounours de dire ça. Je suis pas le meilleur placé pour dire ça, mais c'est vrai que si on voulait être cohérent un peu dans notre discours de Noël, là, de partage, de... L'idéal, ce serait de, quand même de se tourner vers ceux, justement, qui n'ont pas forcément de famille, qui n'ont personne vers qui se retourner. Et pourquoi pas bah, les convier à notre table et leur faire vivre ce moment que nous tous, on aime, quoi. Donc, bon, voilà, ça fait un peu bisounours de dire ça. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais voilà, c'est beau de le rappeler, je pense.
Après, c'est possible de passer un repas de Noël entre copains, quoi.
Oui, bien sûr.
Ma copine,
bien sûr.
Ça se fait bien, quoi. Mm.
Puis finalement, en invitant des gens à sa table qui n'ont pas forcément de famille, c'est un cadeau magnifique qu'on peut faire. Et pour le coup, là, c'est vraiment très écologique vu qu'il n'y a rien de consommé. Enfin, à part si ce n'est de l'amour.
Oui. Est-ce que l'amour est écolo?
C'est un autre débat. Je ne sais pas, ça pollue.
Prochaine émission.
Tu lâches des gaz
Est-ce que les vêtements du Papa Noël sont biodégradables? Est-ce qu'il mérite une cape verte pour la prochaine édition?
Est-ce que sa barbe se composte?
Ça a tant de questions sans réponse.
Est-ce que le Père Noël est vraiment habillé de rouge?
Est-ce que les rennes consomment du gasoil ou de l'essence?
Est-ce qu'ils sont nourris par du soja transgénique?
On mange les rennes?
Eh ben allez, on les rentabilise. Ils sont devenus vieux.
Du coup, là, on a bien parlé de Noël, tout ça, et... Chahut, pour revenir sur votre agenda de l'année, qu'est-ce qui vous attend après cet événement?
Eh bien, il y a un week-end de formation autour des outils d'éducation populaire qui se profile en mai, au Bécron, à Turigny-Fouillard. Voilà, qu'est-ce qui se profile? Peut-être un événement autour des soldes, anti-soldes, en février. Ça reste en suspens pour le moment. Il y aura les oiseaux de passage en octobre prochain. Bon, c'est assez loin. Il y a les échos de la dalle, donc c'est de l'animation d'espace public sur la dalle Kennedy, donc très proche d'ici, qui depuis 2 ans et demi occupe de façon ponctuelle un samedi sur deux à l'automne et au printemps, avec magasins gratuits, goûter, jeux pour les enfants et autres animations d'assaut copains-copines, qui va sûrement continuer au printemps là.
D'accord.
Et qui cherche des âmes volontaires pour les rejoindre.
Si on est intéressé par Chahut, on fait comment pour vous rejoindre, pour suivre cette magnifique aventure chez vous? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook Alors moi je la connais, mais pour la rappeler à nos auditeurs.
Eh bien oui, alors il y a un site internet, collectif-chahut.fr. Pareil pour la page Facebook, vous pouvez chercher Chahut Rennes, c'est un petit logo en noir et blanc. Et surtout, si vous voulez venir découvrir Chahut, en fait, venez voir l'ambiance du marché de Léon, qui est pour moi très représentative, quelque part, de l'esprit de Chahut.
Pour moi, je pense que la meilleure entrée dans Chahut, c'est de s'initier au bénévolat à Chahut. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait lors de la SDE il y a quelques années. Et c'est un bon moment de partage voilà, qui permet de découvrir l'associatif et des gens qui se bougent les fesses avec peu de moyens. Comme ça, quoi.
Ouais, voilà. Après, les d'autres événements qui se passent à l'année, c'est aussi du matos qu'on a, genre un chapiteau, du plancher, des barnums, des toilettes sèches qu'on sort aussi à l'année, qu'on loue pour, en gros, aussi fluidifier le modèle économique de l'assaut.
D'accord.
Qui permet de créer des événements à plus de 12 000 euros pour le marché de Léon ou 23 000 euros pour les oiseaux de passage autofinancés. Quoi.
Et à prix libre. C'est important.
Et puis Chahut, c'est aussi un slogan que des gens connaissent qui s'est assez répandu à Rennes. Du coup, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce slogan qui fait tant d'amoureux à la vie associative rennaise?
Il y a plusieurs slogans.
Ouais, ouais. Tu parles de la chanson ou du slogan?
Je parle de « S'il n'y a pas de bruit, il y aura...
Y a du chahut au bout de ta rue.
Ah bah voilà, il y en a plusieurs que je découvre du coup là tout de suite.
L'important, c'est pas le bruit, C'est l'écho.
Que j'aime beaucoup.
Du coup, ouais. On a soif et on va tout casser. Et si ça continue, il va y avoir du chahut. Bon, celui-là, il est un peu plus répandu.
Je parle de celui-là.
Ah, ouais, d'accord.
On l'entend au bar en général.
Ouais,
mais...
ouais, c'est ça, salut finalement. C'est une grosse famille, c'est une belle ambiance. Voilà, associative, qu'on se partage tous. Moi aussi, après vos, j'imagine, après vos soirées, c'est aussi un moment où vous vous retrouvez avec, avec les bénévoles, un petit moment de convivialité, vous, vous faites un petit briefing, vous prenez le temps pour vous connaître, pour vous parler. Ça peut être aussi, bah, pour ceux qui sont étrangers de la vie associative, d'avoir... Bah, accès à bah, de nouveaux horizons, de découvrir d'autres personnes, et c'est souvent ce qui c'est un plaisir qui parle à beaucoup de personnes.
Ouais, ça, je pense que c'est important d'insister sur le bénévolat. Enfin, je trouve que enfin bon, j'ai rien d'autre à ajouter particulièrement qui veut, mais bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail qu'on a cité tout à l'heure,
contact@chahut-collectif.fr,
et c'est moi, je trouve que ça fait vraiment partie du plaisir de l'organisation d'un tel événement, en fait. De rencontrer des nouvelles personnes et de passer un temps en cuisine à éplucher des patates ou des trucs comme ça. Ça paraît très anodin comme ça, mais en s'occupant pour une cause, tout en discutant, en fait, c'est vraiment chouette. Et après, il y a tous ces temps informels où on boit des coups ensemble, où on monte un plancher ou des choses comme
et
ça.
En apprenant.
Ouais, on apprend plein de trucs. Plein de trucs, ouais.
Et même en amont. aussi en amont, pour j'imagine, préparer cet événement comme le marché de Léon. C'est aussi plein de réunions au fil de l'année. C'est aussi plein de... Bah, de personnes avec des compétences plus ou moins bah, pareilles qui essaient de finalement faire, mettre tout ça en commun et faire un beau truc comme bah, du coup votre marché. C'est, par exemple, vous, je ne sais pas, Steven ou Anis ou Nico, vous pouvez me dire que ce que vous avez appris au fur et à mesure que vous construisez cet événement. Genre, est-ce que quelqu'un, bah, je ne sais pas, par exemple Steven, tu n'as jamais fait de communication sur Internet, est-ce qu'en bossant sur cet événement, tu as pu apprendre comment faire de la com, comment gérer une page, comment... Parce que c'est aussi une démocratisation des savoirs. Et...
Bien sûr. Mais c'est un truc, là, on est une dizaine à organiser ce marché de Léon. Il y aura plus de 40 bénévoles. Et en gros, on est depuis juin pour certains, certaines, depuis octobre pour d'autres. Enfin, c'est un truc qui se crée de longue haleine, où on a envie de, au-delà, que ce soit une aventure éphémère, de créer aussi une équipe autour. Et donc là, juste par exemple, à 20h, on file en réunion hebdomadaire du marché de Léon. L'avant-dernière avant le début, quoi. Et moi, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris plein de choses, hein, ouais, à faire de la com, à monter un chapiteau, à programmer des groupes, à gérer un bar. Enfin voilà, entre autres, quoi. Pas mal de choses sur ça, quand même. De l'animation aussi, d'éducation populaire, quoi. Je me suis pas mal formé à ça ces derniers temps.
C'est un échange de savoir vraiment impressionnant, Nico.
C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est un marché d'échange de savoir. Mais du coup, aussi, il y a la volonté de se dire que ce soit de l'échange de savoir aussi dans l'organisation, parce que... qu'on soit à fond dans le thème, quoi. Jusqu'au bout.
Du coup, on a parlé de Chahut, on a parlé un petit peu du Grap, on n'a pas trop parlé d'Hervué, parce que Hervué, elle fait partie, c'est un instant d'autopromo, Hervué fait partie aussi du réseau Grap, et du coup, bah, c'est aussi plein de petits événements à droite à gauche, et on n'a pas la même ampleur, on n'a pas le même domaine d'action que Chahut, mais finalement, bah, c'est aussi des petits AMAP, des petits projections de films, c'est aussi bah, plein d'outils de sensibilisation à l'environnement, et qu'on trouve aussi, qui sort en effet par un réseau commun qui s'appelle le réseau GRAP, et ça nous permet bah, de vivre tous ensemble et de bah, la militer avec une conviction bah, partagée. Du coup... il reste pas longtemps avant de finir l'émission, mais j'ai bien envie, avant de la quitter, de déjà vous remercier d'être là, parce que ça nous fait plaisir, Steven, Nico et Anaïs.
Ça,
et de
aussi.
Voir des gens aussi engagés et qu'ils ont bah, une telle rage pour faire changer les choses, et plutôt que de manifester, plutôt que de juste de dire faut pas faire ça, bah, vous êtes dans le constructif, vous créez des choses, vous prenez une autonomie, une indépendance, par exemple avec tous vos ateliers qui sont assez... Il y a une petite vingtaine là, je pense minimum. Voilà, du coup, c'est aussi plein de choses qui impressionnent. Du coup, j'aimerais juste vous dire bah, merci pour votre combat, merci pour votre lutte et merci d'être là présent à Rennes. Vous faites vivre Rennes, même si la métropole et la préfecture ne vous reconnaît pas tout tel, bah, moi je vous le dis et je pense que l'équipe de Radioactive vous le dit aussi, bah, yes. Merci à vous.
Ouais, merci.
Merci,
du coup, on va passer à l'agenda culturel de Radioactive présenté par Lucie et Marie à la technique.
L'émission radio. Active.
Ouais, je vais faire un petit agenda des luttes. Et je voulais aussi faire une revue de presse rapide. Du coup, j'ai sélectionné quelques infos. C'est super rapide. Au niveau des luttes, des nouvelles de la lutte à Bure contre le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc la répression continue là-bas. La Cour de cassation vient de valider la mise sous surveillance de plusieurs opposants au projet. Plusieurs ont déjà été mis en examen pour association de malfaiteurs et il y a eu à peu près une cinquantaine de procès en un an. Mais la lutte continue. Dans les autres luttes contre les projets étatiques, il y a à Kolbsheim, désolé, le grand projet du grand contournement ouest. Voilà, il y a une lutte contre ce grand projet. Plusieurs opposants dénoncent l'augmentation de la pollution et du trafic à cause de ce projet et puis la destruction de la biodiversité en général. Sinon, il y a toujours des votes qui passent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par exemple, là, il a été voté qu'on pouvait avoir un paradis fiscal dans l'espace, un truc comme ça. j'ai loupé deux, trois trucs, mais il y a des choses qui passent la nuit, voilà.
Ouais, ils sont tellement déconnectés qu'ils ont fini sur la Lune, l'espace, ça ne nous étonne pas.
C'est ouf.
Et sinon, qui nous concerne plus, il y a la hausse, ça ne nous concerne pas, mais peut-être à l'avenir, la hausse des frais des étudiants étrangers qui ne viennent pas de l'Union européenne. Donc c'est assez controversé. Le gouvernement Édouard Philippe a annoncé la hausse des prêts pour ces étudiants qui viennent d'ailleurs que l'Union européenne. Et ils payent déjà beaucoup de frais. Ils payent des frais pour un test de connaissance en français, par exemple, des frais de dossier. Et puis, ils doivent quand même payer leur loyer, leur taxe d'habitation, etc. Et il y a plusieurs syndicats, etc., qui dénoncent ça et qui disent que c'est un pas vers une augmentation générale des frais étudiants en France. Il y a une motion à Rennes qui a été votée, à Rennes 2, qui a été proposée du coup par le syndicat Solidaire, par l'armée de Dumbledore et par des membres du personnel. Contre cette réforme et il a été voté par le conseil administratif de s'opposer à cette réforme. Est-ce que Ilias, tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Oui, il y a aussi une étude qui a été menée par Campus France en 2012 qui dit finalement les étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études en France se sentent plus bénéfiques, apportent plus d'argent que l'État en dépense pour eux finalement. Et on ne comprend pas cette décision finalement d'Edouard Philippe et tout le gouvernement de rester sur une politique incompréhensible et toujours hors sol, déconnecté des vivants. Quoi.
Ah, parce qu'il semble que c'est un fois 16 le projet des étudiants étrangers. Quoi. Enfin, 16.
On parle d'une licence qui est environ 150-160 euros à 2000 et quelques pour tout le monde, sans exception. Après, Lucille, je te laisse poursuivre ta...
Du coup aussi, il y a les gilets jaunes à La Réunion. La Réunion, il y a toujours des blocages qui continuent. L'île, elle est complètement paralysée. Et aujourd'hui, il y a un plan blanc qui a été mis en place parce qu'il y a trop de personnes qui arrivent dans les CHU à La Réunion. Donc ça a été déclenché et normalement on met ça pour les catastrophes naturelles. Et là, il y a tellement de patients qui affluent aux urgences qu'on a mis ce plan en place. Voilà. Il y a des militaires qui sont envoyés à La Réunion, tout va bien. Et sinon, pour l'agenda local des luttes... Désolée, je vais casser un peu l'ambiance. Enfin, j'ai déjà cassé. Il y a deux rassemblements pour des personnes migrantes demain et après-demain. Donc demain, vendredi 30 novembre, il y a un rassemblement à 12h30 devant le centre de rétention administratif de Rennes à Saint-Jacques-de-la-Lande pour Ali. Donc Ali, c'est un exilé soudanais. Je vous laisse écouter son histoire via la prise de parole d'une personne membre du MRAP à l'occasion d'un rassemblement devant la préfecture hier.
Sur une situation individuelle, mais très très inquiétante. Nous avons appris hier qu'il y avait un demandeur d'asile soudanais qui était enfermé au centre de rétention de Rennes depuis 32 jours. Ce monsieur était ce qu'on appelle un primo-arrivant, il était en France que depuis quelques semaines. Comme beaucoup d'exilés, il était sans domicile, il errait de ville en ville. Il s'est fait arrêter à la gare de Saint-Malo et la préfecture d'Ille-et-Vilaine lui a donc collé une obligation de quitter le territoire vers le Soudan. Donc c'est très très rare d'avoir des expulsions, des reconduites vers le Soudan. Pour information, la Belgique a suspendu les retours vers le Soudan puisqu'on sait que tout exilé de retour à Khartoum est systématiquement exécuté ou torturé. Donc ce monsieur a été présenté avant-hier devant le JLD qui a maintenu son placement en rétention. Et l'avocate a découvert que dans le dossier, il y avait un laissez-passer, un vol pour Khartoum via Addis Abeba hier. Donc, face à l'urgence, cette personne a déposé donc une demande d'asile au centre de rétention. Et malgré le dépôt de sa demande d'asile hier matin, ils ont tenté de le mettre dans l'avion hier soir. Donc ce monsieur, il est à Vallée du Shampoing, il est actuellement aux urgences. Nous sommes passés le voir ce matin avec un interprète. Et donc il est très, très isolé, il ne connaît personne à Rennes. Et il demande vraiment, vraiment à ce qu'on l'aide, à ce qu'on le soutienne pour empêcher son retour au Soudan.
Voilà, donc ça c'était la première information. Du coup, Saint-Jacques-de-la-Lande à 12h30 demain. Et sinon, il y a une marche samedi 1er après-demain pour Babacar Gueye, un jeune homme d'origine sénégalaise qui habitait à Rennes, à Morpa, et qui a été tué le 3 décembre 2015 par un agent de la BAC de Rennes de 5 balles. L'instruction judiciaire est en cours après quelques péripéties. Et pour faire justice à Babacar, un collectif s'est créé pour faire vérité sur l'affaire. Depuis 3 ans, elle lutte pour faire vérité. Et du coup, voilà, ce samedi a lieu une journée commémorative. À 11h, il y a une conférence de presse au Babazoula. À 13h, il y a un rassemblement devant le centre commercial du Gast. Et à 14h, il y a une marche qui va partir du Gast. Donc voilà, et il y a, si vous voulez le lire, du coup, il y a un appel qui a été écrit par de plusieurs personnes noires et exilées et sans papier à Rennes, qui vous pouvez lire sur internet, sur le site du MRAP notamment, qui est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui dénonce un petit peu voilà, les violences policières à Rennes et l'injustice qu'ils subissent en tant que personnes exilées et noires.
Anis.
Si je peux le rajouter, en ce moment il y a le festival Migrants Rennes qui a lieu, donc c'est un petit peu en lien.
Ouais. Merci pour cette revue de presse. Ça sera la fin de l'émission Radioactive. On vous remercie de nous avoir écoutés.
Merci.
La prochaine émission aura lieu dans 2 semaines et sera consacrée aux demandeurs d'asile et aux migrants. Anaïs, Nico, Steven, merci d'être là.
Merci.
Merci.
Bon anniversaire à toi, Elias.
Bon anniversaire, Elias.
Bon anniversaire.
Merci. On vous dit dans 2 semaines et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.
Tout fait.